say it. Et salut, vous êtes bien à l'écoute de La Courte Échelle, une émission anticarcérale contre tous les enfermements, qui est diffusée tous les dimanches de 19h30 à 20h en direct sur les ondes de Radio Galère et que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio Galère. On vous rappelle que vous pouvez nous écrire à La Courte Échelle, 12 rue François Simon, 13003 Marseille, ou par mail à la-courte-échelle@riseup.net. Et aujourd'hui, on voulait vous parler de l'opération Wambushu qui se déroule à Mayotte.
Et peut-être dire qui est autour de la table.
Et oui, du coup, un plateau avec nous pour en parler. Donc on est avec Madi et Mohamed qui font partie de l'émission que vous pouvez entendre à 16h30 le dimanche, qui est Actualité sur les Comores. Donc c'est une émission tous les dimanches aussi, de 16h30 à 18h30. Et on vous remercie d'être resté un peu plus longtemps aujourd'hui pour continuer, pour parler de cette opération horrible.
Ouais, merci beaucoup. Alors, l'opération donc Wambushu à Mayotte, du coup elle a démarré a priori aujourd'hui et pour 2 mois. Et donc c'est une opération de nettoyage des quartiers populaires de Mayotte qui a été décidée par le ministère de l'Intérieur, donc Gérald Darmanin, et validée par Emmanuel Macron. Donc les objectifs de l'opération, et là je reprends bien sûr le discours de l'État qui se pose en sauveur blanc, donc ce serait la lutte contre la délinquance et l'immigration illégale. Cette immigration illégale étant majoritairement originaire de l'archipel voisin des Comores et installée dans des quartiers insalubres appelés bangas. Et en parallèle de cette lutte contre la délinquance, la lutte aussi contre les bandes criminelles et la montée de l'islamisme radical. Je reprends, je le redis, les mots de l'État donc, qui sont notamment lisibles dans une interview du Figaro avec Gérald Darmanin. Donc c'est intéressant pour comprendre ce qui est en jeu. Et donc peut-être que tu peux nous dire ce qui va se passer plus exactement, Amy.
Bah en tout cas, officiellement, le gouvernement a annoncé qu'ils allaient commencer à partir de demain, mais ça a commencé aujourd'hui, on pourra en parler tout à l'heure. Mais ils envisagent du coup le démantèlement de bidonvilles, donc de 1000 logements, au moins 1000 logements dits illégaux, qui vont être détruits, où au moins 5000 personnes logent. Ils ont prévu aussi des expulsions de personnes dites sans papier. Là, clairement, les personnes comoriennes sont directement visées. Et aussi des interpellations.
Peut-être que vous pouvez nous dire dans quel contexte colonial on se situe historiquement. Et cette opération, de quoi elle découle finalement ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi pour me présenter, comme ça a été dit tout à l'heure par l'animatrice, je fais partie de l'équipe, l'émission La Voix, une des voix des Comores, et j'ai eu la chance, et je vous remercie, et de m'accueillir dans votre émission, et justement pour le projet initialement préparé, et le contour, la raison qui a été citée, moi je ne crois pas que ça soit ainsi. On nous dit que c'est pour rétablir l'équilibre et enlever des délinquants. Mais moi je crois que c'est un projet qui en cache un autre. Parce que nous savons la raison pour laquelle la France insiste et persiste pour en toute violation de toutes les lois, les plus primaires, qui est le droit de l'homme et le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Et ça, la France ne le permet pas pour les Comoriens. Et dans ce contexte-là, quand on viole les lois internationales, reconnues par toutes les instances, hein, j'allais dire l'ONU ou le chantre du droit de l'homme, c'est la France. Mais quand on se connaît ou on se sait ou on se dit être le chantre du droit de l'homme, eh bien, on ne viole pas les règles les plus élémentaires d'un peuple à disposer. Donc, ce qui fait que les raisons cachées, ils l'ont dit, moi j'ai entendu très récemment Marine Le Pen. Il a été d'une façon mais plus précise. Elle a dit, quand on a une occasion pareille, il ne faut pas le rater parce que la France n'a pas eu la chance dans toutes les outre-mer qu'elle possède, cette chance-là. C'est quoi? C'est les mannes pétrolières qui se trouvent et gaziers qui se trouvent entre la grande île, la Grande Comore et le côte est, je vais dire, à Mombasa, en Mozambique. Mm-hmm. Donc, il a fait état, moi je ne sais pas, peut-être eux, ils ont les calculs, ils ont les ingénieurs Total et tout ça, et ils établissent ça à 500 000 milliards de mètres cubes. Vous voyez, donc, cette manne pétrolière de ce genre, il ne faut pas le rater. C'est ce qu'ils se disent, sans embâche, sans se casser, et donc, sans se cacher, j'allais dire. Et donc, quand on va expulser des malheureux, parce que moi j'appelle ça des malheureux gens, des enfants qu'on passe par, pour des délinquants ou des gens sans papier et autres, c'est faux. Parce que ces gens-là, hein, que j'en sache, ce sont des gens qui sont nés, la plupart, à Mayotte.
Oui, et puis il faut rappeler que aussi dans les personnes qui habitent dans ces bidonvilles, il y en a qui sont là depuis 20, 30 ans. Oui, justement.
Et pour les bidonvilles, ça c'est un autre débat, pour les bidonvilles, de partout, même ici en France, il y a des endroits, il y a des sujets qui dorment dehors. Et là-bas, Mayotte, plus précisément, ce n'est pas comme ici, on ne dort pas dehors, mais chacun se débrouille comme il peut. Comme ça a été depuis la nuit des temps, on se fabrique une petite fabrication en paille et puis on dort dedans. Et ça, même ceux qui sont natifs de Mayotte, ils sont dans ces conditions-là, parfois. S'ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas les moyens d'existence autres que ça, eh bien, on vit comme ça. Et je vais dire qu'à Mayotte aussi, il y a des sujets, il y a des gens qui ne possèdent même pas de compte bancaire. On a des exemples, par exemple, c'était pour un peu m'éloigner du sujet, c'est pour vous dire qu'on a un ancien maire, qui était maire d'une ville, pour la première fois qu'il voulait se rendre à la Mecque et pour faire sa carte d'identité, il a fallu farfouiller, trouver qu'il n'est pas natif de Mayotte, mais il était enjoané. Et juste, on a ficelé, on a fait des moyens lui permettant justement d'avoir une carte d'identité pour aller accomplir son devoir de religion. C'est vous dire que ces mêmes conditions ou ces mêmes exemples, ils existent à Mayotte. Alors, pour revenir aux jeunes qu'on expulse aujourd'hui, il faut savoir qu'on a pris la précaution de chasser leur maman ou leur papa envers les autres îles voisines. Et on ne leur a pas permis d'aller à l'école parce que son père ou la maman ne fait pas partie des gens qu'on a voulu protéger. Eh bien, ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont 20, 30 ou même voire un peu moins, mais qui ne sont pas scolarisés, qui se sont débrouillés depuis là-bas jusqu'à maintenant, et ils ont grandi, et ils sont un nombre qui ne fait que continuer à vivre comme ils ont été. Mais les moyens d'existence vont en se rétrécissant. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'abattent sur les autres, voilà, qui ont un peu de moyens.
Bah,
c'est ainsi que les choses fonctionnent.
Dans tous les cas, on ne va pas valider la communication de l'État français qui utilise et qui instrumentalise,
Je vous dis, la raison, c'est parce que là-bas, c'est 90% des passages des pétroles qui viennent du Moyen-Orient.
Oui, c'est ça,
le canal de Mozambique. Et puis, il y a aussi ça. Vous savez que depuis, il n'y a même pas ces... quand on vous dit qu'on va commencer aujourd'hui ou demain, on a commencé le 22, mais non, ça a commencé depuis le 18 janvier 1995, le déplacement des personnes forcées. Mais oui, ça, aujourd'hui, on bat des tambours. Justement, je ne sais pas ce qui se cache derrière, parce que je sais qu'ils ont préparé un président, un sbire, un homme lige de la France qui est là pour les grands besoins de la France. Ils l'ont laissé là pour justement pour parchever son plan machiavélique qui est celui de prendre les Comores et ainsi prendre tout ce qui est autour des Comores. Donc,
oui,
voilà.
Parce que tu dis 95, parce que c'est le moment où sous Balladur,
oui,
on a demandé des visas.
Voilà,
on a demandé aux Comoriens d'avoir un visa pour pouvoir aller à Mayotte.
Donc ça a été voté en 1994. Et en 94 aussi, il y a une dévaluation de la monnaie comorienne qui, le président qui était à l'époque, il avait un peu essayé de rechigner, de ne pas être d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Eh bien, on l'a déplacé. On l'a déplacé à La Réunion. Et pour lui dire de ne plus jamais évoquer des choses politiques et qu'on l'a remplacé par un autre, que cet autre-là, 2 années après, il va être empoisonné par je ne sais quel moyen. En tout cas, après s'être rendu ici en Europe, au retour au pays, boum, ça y est, on l'enterre. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait venir ce monsieur-là, Azali. Et celui-là, c'était pour changer la constitution qui, à chaque fois, pendant 14 années consécutives, fait que la France a été condamnée aux Nations Unies par rapport à son occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte. Et ça embêtait la France, ce qui fait qu'il fallait qu'il trouve une personne, à la personne de ce président-là qui aujourd'hui, il a fait, je veux vous rappeler qu'il a fait plus de 13 années. Et que je vous dis que le premier président, lui, qui a voulu vraiment se mettre sur la table avec la France pour négocier la souveraineté des Comores, eh bien, il n'a fait que 2 ans. Et 2 ans, je vous dis combien il a fait du travail. Il a introduit la question des Comores aux Nations Unies. Il a introduit dans la Ligue des États arabes. Il a introduit aussi à l'OIA à l'époque, l'actuelle Union africaine, à l'OIA, un travail diplomatique avec peu de moyens financiers. Et qu'est-ce qu'on avait? La France avait tout enlevé, les assistances techniques, oui. Les enseignants, et même il a enlevé toutes les radios émetteurs et récepteurs qui étaient dans l'aéroport, etc. Et c'est justement, et on a déclenché encore un autre déplacement de peuple de la grande île de Madagascar. Environ 16 000 personnes en 1976. Tout ça, c'était pour assoiffer les Comoriens et les affamer. Mais que la personne qui était là, la personne d'Ali Soali, intelligent qu'il était, et vraiment habile et habité d'une grande volonté de vouloir justement prendre ses responsabilités, d'élever l'État comorien au stade où il l'avait élevé, parce qu'on avait alphabétisé beaucoup plus, à 90% des mamans qui étaient analphabètes à l'époque, ils ont déjà commencé à savoir s'instruire et à lire. C'est vous dire le travail qu'il avait fait. Je vais m'arrêter là pour passer peut-être la parole à mon frère Mohamed Mansab, peut-être.
Bah, en tout cas, déjà, c'est super important. Enfin, c'est carrément important de rappeler ce contexte colonial, ouais. et que en fait, l'opération cette opération horrible qui se passe, qui commence maintenant, en fait,
elle existe depuis.
Et aussi sur le truc de l'État français hors la loi, que là, en fait, il se passe la même chose. Nous, quand on fouinait aussi tout à l'heure pour avoir des infos, déjà, on galérait. Mmh. Et aussi que, en fait, toutes les personnes là qui vont être délogées n'ont aucune solution aussi de. En fait, elles vont juste être expulsées sans avoir de solution pour être relogées. Et aussi, on voulait voir avec vous si vous avez eu des infos, parce que nous, on avait l'info, en tout cas l'info officielle, même si c'est hyper caché, enfin, ils ne donnent pas beaucoup d'infos. Apparemment, en fait, ça a commencé aujourd'hui.
Officiellement.
Apparemment, bon, disons que l'opération elle-même, bon, il l'a rappelé mon collègue, que normalement, là, pourquoi ça fait des vagues aujourd'hui? C'est parce qu'il y a le nombre. Il faut savoir que depuis 1900, actuellement, il est dit qu'on expulse 80 Comoriens par jour. Avec l'opération, c'est 400. De maintenant, donc normalement le 21, c'est ce qui a été prévu, donc normalement c'était hier, jusqu'à fin juin. Donc on veut expulser. C'est parce qu'il y a le nombre. C'est ça ce qui fait. Mais normalement, il ne faut pas oublier qu'il faut rajouter le fait que chaque jour, il y a des Comoriens qui meurent. Donc, il faut rajouter cela. Donc, vous dites que, est-ce qu'on a des infos, comment ils vont être faits? Normalement, de toute façon, ces personnes qui sont à Mayotte, à Mahoré, ils sont chez eux. Donc, ils sont inexpulsables. Voilà, là, c'est un déplacement forcé de population qui est passible de la Cour pénale internationale, s'il y avait de la loi. L'essentiel, c'est pour nous, c'est rappeler que normalement, aujourd'hui, la balle est au camp comorien. Ça appartient à l'équipe comorienne de dire non. Or, le problème, c'est vrai, et le problème, c'est qu'il a signé des accords en 2019 qui sont rappelés à la fois par l'État comorien et par l'État français. Vous voyez, ils sont en connivence. Donc là, c'est ça ce que nous avons à rappeler. Et pour nous, qu'est-ce qu'on attend de la France? En réalité, mon collègue, mon frère l'a expliqué, la France se dit et être normalement le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration. Nous, ce que nous voulons, c'est que ça soit effectif. Ce n'est pas effectif. Donc, ce qu'on attend, c'est une réparation aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui est fait. Il nous a rappelé un peu le contexte aujourd'hui. Bien sûr, au début, ce n'était pas parce qu'il y avait stratégique, mais on sait qu'aujourd'hui, les vraies raisons. Ce qui est important, c'est que si on parle de délinquance aujourd'hui, c'est simple. Qui est responsable? C'est ça ce que nous avons à souligner. Nous ne disons pas que nous, en tant que parents, ne pouvons pas avoir une petite responsabilité. Mais pour, par exemple, si par exemple on parle d'ici, en France par exemple, avec ce qui se passe dans les quartiers difficiles, dit quartier nord, on peut parler que, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Mais si les dents ne nous donnent pas. Mais en ce qui concerne la Mayotte, c'est pire, puisque là-bas, même les parents, on les enlève. Comment faire? Donc pour nous, nous avons déjà souligné qui est responsable, c'est l'État français. Donc il a les moyens aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on attend de lui, c'est de faire une réparation. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas des citoyens, juste des citoyens lambda. Non, nous sommes des citoyens aussi politiques. Pour nous, nous appelons aux Comoriens à un sursaut pour prendre leurs responsabilités, à exiger à la fois, nous, par exemple, en tant que, par exemple, si nous parlons en tant que citoyens français, nous appelons à la France à être plus respectueux de ce qu'il dit de sa devise. Et là, la plus belle devise, mais c'est une devise, elle n'est pas appliquée. D'ailleurs, pour l'émission, c'est une autre prison en réalité. Quand vous parlez de prison, normalement, c'est ça ce que je voulais dire au début. C'est d'abord, vous avez entièrement raison. Comme vous êtes contre toute forme de prison, là, déjà, ça en est une. Et là, la France touche le fond. Pourquoi? Parce que même, déjà, on peut être qu'écœuré de ces histoires de papier, tout ça. Mais en plus, là où ils sont même étrangers, ils trouvent vraiment l'audace, mais quelle force de pouvoir dire que ce sont ceux des autres qui sont étrangers. Non, c'est quoi ça? Donc, au contraire, c'est l'État français qui doit se ressourcer, il doit prendre conscience que non. Et bien entendu, ça n'enlève en rien à l'État comorien, mais c'est un État faible. Pourquoi? Parce que lui, il est là, il paraît qu'il a peur. Il a peur de quoi? Vous savez, il a signé des accords depuis 2019, d'accord? Sachant qu'il est illégitime, illégal, mais quand même, la France l'a maintenu. Parce que c'est lui qui est président là-bas, c'est parce qu'il est soutenu par la France. Or, il a tout violé. Aujourd'hui, il n'y a pas de constitution aux Comores, c'est important de le rappeler, depuis le 30 juillet 2018. Il a dit, moi je suis la constitution. En 2016, notre mouvement, qui s'appelle MTRPC, c'est-à-dire Mouvement pour une transition équitablement réconciliatrice et pragmatique aux Comores, d'où le nom Suluhu, c'est-à-dire réconciliation, nous appelons à ça une vraie réconciliation, où d'abord nous établissons les vraies responsabilités. Et les vraies responsabilités, même nos frères et sœurs mahoraises, sont des victimes, même Estelle Youssouf, même Mansour Kamardine, quoi qu'ils fassent. Bien sûr qu'ils sont contre leur propre pays, c'est vrai, mais ils sont des victimes avant tout. Ils sont au même titre que Azali, qui est président là-bas.
Années de colonisation.
En plus, lui, il a la signature. Il suffit de dire non, et là, la France, il sera, comment dirais-je, confondu, puisqu'il a dit, comment je vais faire? Aujourd'hui, s'il envoie des gens, parce qu'il y en a qui disent, il y a le côté humanitaire, nous n'y sommes pas. Mais c'est d'abord un problème politique avant tout. Pourquoi? Parce que s'il dit, parce qu'il y en a des Comoriens ou d'autres qui disent, même des gens qui sont, comment dirais-je, qui sont sensibles à la question, ils disent, bon, Là, le problème, si on déplace ces Comoriens ou autres, là, on va faire une sorte de déséquilibre. Mmh. C'est un faux problème. Mmh. C'est un faux problème parce qu'on n'a pas déplacé quelqu'un qui est chez lui. C'est tout. C'est rien que ça. Et là, je parlais par rapport pour finir par là, je parlais par rapport aux accords. Il a fait des accords. Du coup, il expulse les Comoriens, mais d'une façon douce. Mmh. 80%, 80 personnes, pardon. Mais aujourd'hui, le fait qu'il a montré son visage hideux, cynique, parce que ça, c'est du cynisme, il dit 400. Et là, même le président comorien ne dit pas non, 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 là, je ne peux pas jouer avec ça. Là, vous avez trop. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce déclic. Il y a des mouvements, 10 citoyens aujourd'hui, ils se mobilisent là-bas aux Comores. Même le président comorien, il a arrêté des manifestations.
Et là où c'est cynique, là où c'est cynique, ils vont jusqu'à donner des pourcentages. Moi, je l'ai entendu par un journaliste, un grand journaliste de Figaro Magazine, qui disait que l'État comorien a accepté de reprendre 70% des expulsés. Vous vous imaginez ? Et les 30%, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et pourtant, on va les envoyer dans une des îles, en juin, justement. Mmh. Alors, c'est un consentement de pourcentage. Ça veut dire qu'on sait déjà le nombre de ce qu'on va faire. Et pourquoi accepter des pourcentages s'il y a dedans, dans cet ensemble-là, il y a des Malgaches, il y a des Africains de Grandes Lacs, et il y a aussi d'autres nations qui se greffent, parce que vous savez que le ravage d'émigration, c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans des pays francophones où la France a pris le soin de mettre sur place des sbires, des dictateurs. Et en échange, la France pille les matières premières avec ses entreprises nationales et déplace les peuples et donne des canaux, justement, à ce que la France ait des échanges minimales pour ceux qui veulent être utilisés dans les réseaux, je vais dire, de banditisme ou des raisons politiques, parfois, on les utilise. Mm. Donc, forcément, il y a un passoire, un filtre qui s'opère entre ces États-là, qui fait qu'il y a des gens qui savent où passer, dans quelle maille, pour se retrouver à un tel point. Au point que, par exemple, il y a des pays comme le Mali, ils n'ont pas établi des accords comme c'est le cas des Comores, qui permet que le Malien sera rattrapé ici, il sera envoyé là-bas, il sera renvoyé là-bas. Ça, il y a des pays où ils n'ont pas signé ces accords-là. Mais la petitesse des Comores, est, étant donné que là-bas, on n'est pas encore en train d'utiliser, en tout cas, d'exploiter le pétrole, mais on a d'autres ressources que les plus grands parfumeurs. Par exemple, Guerlain, par exemple, LVMH, par exemple. La petite essence de Langlang que les Comores a toujours été le fournisseur, et quelques clous de girofle, etc. Donc ça, c'est déjà, ça permet à la France de s'offrir ce qu'on appelle en argent de devise gratuite. C'est-à-dire que tout ce qu'on vend là, tout ce que je viens de citer là, quand on les vend, bien sûr, ils sont produits localement et la France les exporte ici. Et précisément, ici, je sais que c'est à Grasse, aux Alpes-Maritimes. Et c'est là où on échange les parfums de luxe. Et il y a déjà ça. Mais cet argent-là, ça ne peut pas se constituer en devise. Ce qui fait que les Comores à zéro. On vit toujours dans la mendicité, les banques mondiales, etc., et pour signer des accords avec les banques mondiales, eh bien, qu'est-ce que vous, en échange, vous allez changer votre souveraineté. Par exemple, vous allez accepter, je fais l'exemple des accords qu'on a signés en 1994, on revient en 1994. Qu'est-ce qu'on a signé ? C'est que toutes les étendues de la mer, des Comores, de 2014, eh bien, ça appartient à l'Europe. Hein? Par exemple, je prends l'exemple de ce que nous venons de citer là. Si aujourd'hui, il y a cette convoitise des mines pétrolières, eh bien, les Comoriens, ce personnage-là, lui qui est là, le président-là, et même avant lui, on a déjà signé des accords que comme quoi les zones ultra-périphériques comoriennes appartiennent à l'Europe. Comment vous... Mais avec quoi, dans ces conditions-là, les Comores vont vivre? Si vous signez dans des papiers, je ne sais quel moyen ils ont fait pour que cela soit possible, on va signer que tout ce qui nous appartient, ce qui nous permet d'être un pays, on vous le donne. Vous croyez que quelque part, c'est quelque chose qu'on l'a fait avec vraiment le cœur ouvert, ou c'est quelque chose, il y a une contrainte? Bien sûr, il y a des gens qui aiment à tout prix se maintenir au pouvoir, quitte à vendre leur pays, à vendre leur peuple, etc. Eh bien, ce sont des cas, des exemples, voilà, que nous vivons aux Comores. Parce que celui qui fait le dos rond à la France, eh bien, nous avons des exemples, l'assassinat de trois présidents. Trois présidents et les Comoriens, moi c'est là où je me pose des questions, mais c'est qu'on a affaire à quel genre des êtres humains, des individus qui ne voient pas l'exemple. Parce que ça fait depuis 47 ans et que le premier, le second, le troisième, et la France n'a pas arrêté. Lui qui est là, ça fait, c'est vrai, il a 23 ans, mais c'est parce qu'il signe tout. C'est ça le problème.
Oui, parce qu'on arrive pas loin de la fin. Juste pour rappeler aussi, comme on est à la courte échelle, qu'il y a un centre de rétention administrative à Mayotte qui est, selon l'État...
Un
modèle de centre de rétention administrative qui concentre énormément de prisonnières, d'enfants. Je crois que c'est la moitié des expulsions, Bologna, si tu
peux. Exactement. Par exemple, dans 2020, c'était 2000 enfants. Dans 2019, c'était 3000 enfants. Du coup, ça, c'est 15 fois plus que l'Hexagone. Et dans le CRA en général, c'est plus que 50%. Dans le CRA, c'est à Mayotte. Du coup, ça veut dire que le plus grand CRA pour la France, ou le plus important, entre guillemets, pour Darmanin, c'est à Mayotte. Mm. Et par exemple, il a dit ça l'année dernière, il a visité Mayotte, il a dit exactement ça, c'est un modèle pour le CRA en France, pour l'Hexagone. Du coup, c'est exactement ça, les expulsions va augmenter. Le but pour l'État français, c'est 30 000 expulsions cette année. Du coup, c'est juste plus et plus. Ça, c'est le but de l'État, en fait. Du coup, c'est vraiment, comme vous avez dit, c'est la frontière, c'est de pousser la frontière et expulser, en fait.
Et criminaliser les personnes étrangères. Et c'est ce qu'il, d'ailleurs, il veut faire avec sa loi Darmanin, qu'il veut, entre guillemets, ressusciter là bientôt. Il n'y arrivera pas, on ne veut pas qu'il y arrive. Et voilà, mais peut-être qu'on pourra refaire une émission sur le CRA de Mayotte. Je pense qu'il y a beaucoup à dire.
Oui, le centre de rétention de la petite terre. Moi, je crois que ce chiffre-là, ça donne le frisson parce que vu la petitesse de l'île, vous savez que c'est 374 km², c'est le dernier recensement fait état de 300 000 habitants. Et dans l'ensemble des pays de la France, hexagonale et autres, les Outre-mer, quand on dénombre le nombre maximum des reconduites à la frontière étant des enfants de ce genre, on s'imagine un petit peu le mal-vivre que subissent le peuple comorien. Ça a une concentration, mais vraiment d'expulsion à outrance, parce que vous savez, c'est pourquoi cela est possible. C'est parce que vous savez que les moyens d'existence, les moyens mécanismes économiques, etc., ne permettent pas de fixer les Maorais, eux qui ont la possibilité d'avoir des papiers, à Mayotte. Donc, en échange, les Maorais natifs ayant des papiers français, soit vous les trouvez en masse à La Réunion, en France... que ce soit à Marseille, à Paris, dans n'importe quelle ville de France, vous les trouvez. Et à l'échange, eh bien, puisque Mayotte et ses îles sœurs est séparée le plus près de 70 km. Et ça, même des embarcations les plus bancales, ils arrivent à traverser au moment où il n'y a pas de houle, au moment où la mer est calme. Et ça se faisait depuis la nuit des temps. Bon, oui. Donc voilà, un petit peu, c'est pour résumer que ce nombre-là donne des frissons et que c'est quelque part un acte criminel de la part de l'État français. C'est ça ce qu'il faut retenir dans tout ce qui est là.
C'est exactement ça. Malheureusement,
juste pour terminer, que justement, pour se battre contre Darmanin et toutes ces horreurs-là, il y a du coup une manifestation samedi prochain.
Voilà, petit point agenda. Il y a une mobilisation nationale contre la loi Darmanin le 29 avril. Donc cette loi, elle n'est pas passée parce qu'il n'a pas réussi à avoir la majorité, mais il va la retenter dans quelques semaines. Et donc à Marseille, c'est à 14h à Porto d'Aix. Venez samedi, nombreux et nombreuses.
Voilà. Donc,
on peut se dire au revoir et on va passer une musique de Kerry James qui s'appelle « Lettre à la République ».
Merci pour venir.
C'est nous qui vous remercions de nous avoir accueillis.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Salut.
À la prochaine.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande hypocrite, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharnent à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.